De Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume.
Bonjour David.
Des images superbes de cette réouverture de Notre-Dame, elles ont été vues dans le monde entier. Mais maintenant, Emmanuel Macron doit trouver un nouveau Premier ministre, on atterrit. Ce moment Notre-Dame n'a-t-il été qu'une parenthèse enchantée pour lui?
Et écoutez, c'est vrai que durant ces deux jours de grâce, il faut le dire, on a eu l'impression que la France était le plus fier des pays et Emmanuel Macron le plus heureux des présidents. Les images de Notre-Dame, vous l'avez dit, étaient sublimes, émouvante, la splendeur retrouvée de la cathédrale, les longs applaudissements à tous ceux qui l'avaient sauvée ou qui l'ont reconstruite, la portée visuelle des gestes de la liturgie, de l'évêque frappant le portail de sa crosse à la consécration du nouvel autel, en passant par le réveil de l'orgue. Oui, à travers Notre-Dame, la France a montré, par son histoire et par ses savoir-faire, son génie, son volontarisme et, pour une fois, son unité. Et il faut bien reconnaître qu'en maître des cérémonies, Emmanuel Macron était à sa place et a trouvé les mots justes, voyant dans cette renaissance, je le cite, une métaphore heureuse de ce qu'est une nation. On a vu aussi un président accueillant le monde et capable d'un joli coup diplomatique avec cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, samedi et hier, la crise française semblait bien loin.
Mais, car il y a un mais, la voilà qui se rappelle au bon souvenir du président, la crise française, et là, il y a moins de raisons de se réjouir.
Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Vous savez, lorsque l'archevêque de Paris avait présenté au chef de l'État le reliquaire qui doit accueillir la couronne d'épines, il avait justifié l'éclat lumineux de ce reliquaire par le fait que cette couronne offerte à Notre-Dame par Saint-Louis était à la fois, je cite l'archevêque, une couronne de dérision et une couronne de gloire. Alors, en bonne théologie chrétienne, ce paradoxe a un sens, hein, le chemin de la croix qui conduit à la résurrection. Mais dans la pratique politique, c'est en même temps là et bien plus précaire. Le président qui célébrait ce qui restera peut-être comme l'un de ses succès les plus incontestables est celui qui est aujourd'hui sans majorité, sans gouvernement et qui peine à trouver un nouveau Premier ministre et à recréer les conditions d'un cadre stable. À le voir accueillir hein, tous les grands de ce monde, Donald Trump en tête, on se croyait face à un chef de l'État au fait de sa puissance, mais le maître des cérémonies de Notre-Dame est un roi nu en son propre pays. Il a parlé samedi, et disons-le bien parlé, d'une France qui s'était dépassée et qu'il aimait. Il doit maintenant réapprendre à parler à une France qui s'enfonce et qui ne l'aime plus.
Autrement dit, c'est pas à Notre-Dame qu'il va trouver son Premier ministre.
Pas vraiment, hein. Même si, et ça c'est l'ironie d'un tel événement, la nef de Notre-Dame samedi était remplie de gens dont le nom est cité pour Matignon, hein, François Bayrou, Catherine Vautrin ou Bruno Retailleau. Alors, il lui reste quelques heures maintenant pour trouver celui ou celle qui sera capable de rendre un minimum de cette confiance à cette nation qu'il aimerait heureuse. Alors l'archevêque de Paris a fait prier pour que notre pays qui scrute, pour notre pays qui scrute son avenir avec inquiétude, eh bien parions qu'Emmanuel Macron ne boudera pas cette invitation faite à Notre-Dame.
L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant l'invité de la matinale et cette question, quels sont les enjeux géopolitiques de la chute du régime de Bachar al-Assad? Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez publié cette année l'Atlas des frontières, murs, migrations, conflits aux éditions des Arènes. Avant d'évoquer les conséquences régionales et internationales, la chute de Bachar a des airs de surprise. Est-ce vraiment une surprise?
C'est une surprise parce que c'est allé très très vite. Mais vous savez, David Abiker, les régimes autoritaires ont une caractéristique. Ils durent longtemps et ils s'effondrent très vite. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement à quel moment ils s'effondrent. En fait, il s'est passé, on peut reconstituer le puzzle, il y a une conjonction de trois choses. D'abord, les soutiens du régime, ceux qui ont sauvé Bachar el-Assad en 2015, l'Iran et la Russie sont affaiblis ou ne peuvent pas, n'ont pas pu affecter les moyens militaires nécessaires à la poursuite de ce soutien. Vous avez une armée corrompue, une force organisée qui est prête à avancer et un pays opportuniste, la Turquie, au nord, qui décide que c'est le moment. Tout cela fait que ben voilà, les choses sont allées très vite. Encore une fois, les régimes autoritaires, on le voit partout dans l'histoire, partout dans le monde, ils durent longtemps, mais ils peuvent s'effondrer très vite.
Bruno Tertrais, cet effondrement, c'est la victoire de rebelles djihadistes. Mais de quel djihad parle-t-on ? On a l'impression, en regardant les commentaires, en écoutant un peu ce qui se dit, qu'il y a des bons et des mauvais djihadistes.
Alors,
maintenant,
je ne dirais pas cela. Hein, ça me rappelle, si vous voulez, le débat sur les talibans modérés, les bons ou les mauvais. Non, d'abord, il y a 50 nuances d'islamisme et même de djihadisme. J'ai vu le malaise sémantique qui s'installait la semaine dernière chez vos confrères et consoeurs. Alors, des islamo-djihadistes. Bon, écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que, premièrement, ce sont des gens qui ont un agenda national. Il n'est pas question d'exporter une quelconque révolution, il n'est pas question d'exporter le djihad. C'est plutôt une bonne nouvelle pour, y compris pour nous. Après, savoir si ce sont plutôt des islamistes radicaux ou des islamo-djihadistes, je laisserai aux experts du sujet le soin de trancher, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment trancher, parce que ce régime qui va s'installer, on ne sait pas exactement quelle coloration il emportera. Pour faire simple, David Abiker, je vais vous dire que on va avoir un régime qui, à mon sens, sera quelque part entre la Turquie et l'Afghanistan. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un régime qui sera certainement islamiste, mais avec des nuances qu'il est encore un petit peu difficile de cerner à cette heure. En tout cas, moi, je ne rentrerai pas dans le jeu des pronostics. C'est encore trop flou.
Alors, passons maintenant aux conséquences régionales. Bruno Tertrais, qui sont les grands perdants, qui sont les grands gagnants de cet effondrement du régime syrien?
Ah bah, le grand gagnant, c'est évidemment la Turquie, qui, ça y est, Erdogan, c'est payé, pardonnez-moi l'expression, Bachar el-Assad, et la Turquie va pouvoir faire deux choses. Premièrement, établir, conforter sa zone de sécurité, c'est comme un nouveau petit vilayet ottoman au nord de la Syrie, et surtout s'assurer que les réfugiés syriens, qui sont extrêmement nombreux, plusieurs millions en Turquie, vont pouvoir rentrer. Donc là, c'est gagnant-gagnant pour monsieur Erdogan. Les perdants, à l'évidence, ce sont la Russie qui va non seulement perdre un allié, mais aussi très probablement, enfin, ils sont déjà en train de partir, perdre deux bases militaires importantes qui signalaient le retour, le grand retour de la Russie au Moyen-Orient, les bases de Tartous et de Khmeimim, c'est-à-dire une base navale et une base aérienne. Donc, c'est une vraie perte pour la Russie, perte aussi majeure, bien, on l'a tous dit depuis quelques jours, pour l'Iran, qui voit l'axe de la résistance patiemment construit depuis 40 ans s'effondrer littéralement sous nos yeux. Le Hezbollah n'existe plus en tant que force militaire puissante et organisée. Et ce fameux point de passage qui allait de l'Iran à l'Irak, à la Syrie, au Liban, vers la Méditerranée, ce fameux accès de l'Iran aux mers chaudes, enfin à la mer Méditerranée, la mer chaude c'est plutôt la Russie, eh bien, ça y est, il est brisé. Donc, en termes de géopolitique compréhensible, on va dire, la Russie perd son accès aux mers chaudes et l'Iran perd son accès à la Méditerranée. Non, c'est vraiment une très grosse perte pour la Russie et pour l'Iran, avec une grande question sur l'Iran que beaucoup de gens vont se poser légitimement. Est-ce que ça va conforter l'Iran dans sa volonté d'aller jusqu'à la bombe atomique, puisque c'est après tout peut-être le seul atout stratégique qui lui restera.
Mais un paradoxe quand même, c'est que deux conflits fabriquent la fin d'une guerre civile, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'Ukraine et le conflit au Proche-Orient.
Un général américain, il y a une vingtaine d'années, disait que le Moyen-Orient est comme un mobile. Vous touchez une pièce et toutes les autres pièces se mettent à bouger. Vous savez, on est quand même dans une région très proche de l'Europe orientale, au fond. Et donc, c'est pas extraordinaire que toutes ces pièces soient interdépendantes les unes des autres, mais c'est vrai, on peut le dire, c'est indirectement la chute de Bachar el-Assad est en partie le fruit du conflit ukrainien et du conflit au Proche-Orient.
Alors, on a vu des scènes de pillage de la résidence du chef de l'État syrien. Les scènes de pillage, bon ben c'est assez courant dans ces contextes-là. En revanche, on est plutôt inquiet sur l'arsenal syrien et notamment l'arsenal chimique, puisque Bachar el-Assad s'est rendu coupable d'avoir utilisé ses armes chimiques contre son propre peuple. Est-ce qu'on sait où sont ces armes et ce qu'elles pourraient devenir ?
Ce pillage des palais en rappelle un autre, en rappelle d'autres, bien sûr. Vous avez fait tout à l'heure un excellent rappel de comment la chute des dictateurs se passe. Ça a rappelé, bien sûr, dans le pays d'à côté, la chute de Saddam Hussein et le sac des palais de l'époque. Ce qui me permet d'ailleurs de rappeler rappeler que c'est aussi la fin du baasisme, c'est-à-dire de cette idéologie nationale que certains n'hésitent pas d'ailleurs à comparer à une forme de fascisme moyen-oriental qui a quand même perduré, en tout cas officiellement, pendant plus de 60 ans. C'était le deuxième régime baasiste avec celui de l'Irak. Les fameuses armes chimiques. Alors là, effectivement, il y en a. C'est pas comme en Irak. On est sûr qu'il y en a, enfin, qu'il y en avait et qu'il y en a toujours. Le pays qui s'en inquiète le plus, c'est Israël. Et Israël, qui suit ces choses-là depuis des décennies de manière extrêmement précise, a déjà commencé à bombarder un certain nombre d'installations liées au programme chimique syrien, de telle sorte que ces moyens ne puissent pas tomber entre de mauvaises mains, y compris d'ailleurs, sans doute, entre les mains du prochain gouvernement syrien.
Les médias sont toujours pressés, les journalistes aussi. On veut savoir ce qui va se passer juste après, on ne sait pas attendre. Est-ce que la fin de cette guerre civile, si c'est la fin, va provoquer des tensions ou un apaisement dans la région?
Ça crée des frictions, cela crée du bouillonnement. C'est encore trop tôt pour le dire, cher David, je suis navré, mais je voudrais quand même rappeler deux choses. D'abord que souvent, on préfère dans la région un régime autoritaire où qui sait où il va à un régime dont on ne sait pas trop où il va. Regardez Israël, par exemple. Israël, on vous le dit depuis des années, nous préférons le diable que nous connaissons au diable que nous connaissons pas. Quand on leur demandait que pensez-vous de Bachar el-Assad ? Voilà, parce qu'au moins, s'il y avait quelque chose de prévisible, donc une ère d'incertitude s'ouvre, mais je pense que c'est une question que se posent les auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de risque pour nous ? Le terrorisme, les réfugiés ? Et là, je crois qu'il faut rappeler, franchement, une chose importante. Le régime de Bachar el-Assad est le co-constructeur de l'État islamique. C'est lui qui, en libérant des djihadistes de prison et en les envoyant vers l'Irak au début des années 2010, a participé à la création de l'État islamique. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Je comprends qu'on s'inquiète aujourd'hui, mais rappelez que le régime de Bachar el-Assad a participé à la naissance de l'État islamique. La deuxième chose, les réfugiés, il est légitime aussi de s'en inquiéter, mais c'est ce régime, cette guerre civile qui a provoqué ces flux de réfugiés. Les réfugiés, ils sont en train de rentrer, on les voit. Donc, je crois qu'il faut... Ça n'est pas pour dédouaner le régime qui va s'installer de ses actions futures, nous ne savons pas trop ce qu'il fera, mais dire on avait la stabilité et maintenant on a des risques. Attention, ne pas inverser les propositions. C'est à cause de Bachar el-Assad que nous avons eu l'État islamique et les réfugiés. Je simplifie un peu, mais c'est quand même quelque chose auquel il faut toujours rappeler.
En parlant des réfugiés, on a entendu des réactions très rapides d'une partie de la classe politique, Éric Ciotti ou certains représentants du Rassemblement National, qui ont immédiatement mis en garde après la chute du régime syrien contre un afflux de migrants vers l'Europe.
Mais justement, comme je vous le disais à l'instant, c'est exactement le contraire. Ces réfugiés syriens, en général, ils veulent rentrer. Ils veulent rentrer chez eux. Et encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles la Turquie a soutenu ce renversement et ce changement de régime. C'est pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Donc, moi, je fais le pari qu'on aura beaucoup plus de réfugiés qui reviennent que de réfugiés qui partent. Ça dépendra aussi, bien sûr, du sort qui est réservé aux minorités, notamment aux minorités chrétiennes. Pour l'instant, les premiers signaux sont plutôt positifs sur place, mais attendons de voir, bien sûr.
Quelle va être l'attitude des États-Unis et de la Russie dans cette région ?
La Russie ne veut pas tout perdre au Moyen-Orient. Elle vient de convoquer elle vient de demander une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la Russie d'utiliser cette expression, a d'autres chats à fouetter. Encore une fois, ça montre en creux. Ce qui se passe montre aussi toutes les difficultés matérielles et militaires qui se posent à la Russie. Donc la Russie va s'efforcer de ne pas tout perdre et se dit que, voilà, comme c'est le cas depuis à peu près 3 siècles, la Russie finira par revenir au Moyen-Orient. Mais là, pour l'instant, elle a à peu près perdu toutes ses billes. Pour les États-Unis, la priorité sera bien sûr de continuer à contribuer à la sécurité d'Israël, mais surtout de s'assurer que l'Iran n'aille pas jusqu'au seuil nucléaire, parce que ça va être un des grands sujets des prochains mois. Un Iran affaibli qui perd ses principaux leviers d'action, il reste les outils quand même au Yémen, eh bien c'est un Iran qui pourrait effectivement être tenté d'accélérer son programme. Et là, ça va être un des grands sujets des prochains mois.
Bruno Tertrais, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et que vous venez de publier l'Atlas des frontières, murs, migrations, conflits aux éditions des Arènes. À bientôt, Bruno.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans la presse de ce matin, on cherche l'ouverture et on la trouve.
Les rebelles syriens l'ont trouvée, l'ouverture, et plus vite qu'on ne le pensait. Après 24 ans d'un règne sanglant, écrit La Croix, le régime de Bachar el-Assad a été balayé en 10 jours. La chute soudaine du despote poursuit Libération a été célébrée dimanche par des millions de Syriens euphoriques et incrédules dans le pays et à l'étranger. Le quotidien L'Opinion explique les dessous de cet effondrement éclair, l'affaiblissement du parrain russe, bien sûr, mais aussi le délitement d'une dictature de l'intérieur. L'armée du régime était clochardisée, écrit L'Opinion. Les soldats crèvent de faim et les paysans les nourrissent pour qu'ils ne volent pas leurs moutons. Et Le Figaro raconte les dernières heures du clan Assad, le tyran et ses proches pressés de monter dans un avion privé samedi peu avant 22h, laissant derrière eux un pays dans le chaos.
La Syrie est-elle délivrée ou sous la menace d'une nouvelle tyrannie islamiste cette fois? Les titres des journaux expriment l'incertitude.
Damas valait bien une liesse, mais le monde observe la chute de Bachar el-Assad entre liesse et prudence, relève Le Parisien. Le journal décrit le chef des rebelles, Abu Mohammad al-Jolani, 42 ans, barbe noire et œil vif, passé d'un vocabulaire fondamentaliste à une parole modérée pour parvenir à ses fins, qui a rompu avec Al-Qaïda et troqué le turban des djihadistes pour un uniforme militaire et parfois même un costume civil, une stratégie de la cravate version islamiste en quelque sorte. Après Bachar, inquiétude et espoir, hésite Le Télégramme de Brest. La Croix évoque une transition à haut risque. Les Échos, la grande inconnue de l'après-Assad. Il est toujours possible, malheureusement, qu'une ouverture soit suivie d'une fermeture.
À Paris, le grand événement du week-end, c'était la réouverture de Notre-Dame de Paris. La cathédrale fait encore la une ce matin.
Notre-Dame de beauté, titre Le Figaro, avec vue plongeante sur l'intérieur de la cathédrale, accueillant ses invités de marque. La renaissance de Notre-Dame, proclame La Croix, ce qui est bien le moins. Même Libération, a priori moins sensible aux célébrations religieuses, évoque une réouverture déjà culte, en soulignant que l'inauguration en grande pompe de la cathédrale a été l'occasion d'un moment d'unité dans une période troublée, mais a un peu froissé les tenants d'une stricte laïcité. Tout cela parce que le président de la République a finalement parlé à l'intérieur de Notre-Dame à cause de la météo. C'est donc le ciel qui en a décidé ainsi. Dans le hors-série, très beau hors-série du magazine Le Point sur Notre-Dame de Paris, Ken Follett, grand romancier des cathédrales, tranche ce litige à sa façon. « Moi qui ne suis pas croyant, dit-il, je reste estomaqué quand je suis dans une cathédrale. L'architecture, la musique, les mots de la Bible me procurent une certaine paix dans l'âme. Et à mon avis, c'est ce que ressentent les visiteurs. Peu importe à quelle religion ils appartiennent, on se promène dans un bâtiment qui existe en général depuis 800 ans. C'est très émouvant de savoir qu'un homme, il y a 800 ans, a peut-être pensé la même chose que moi à cet endroit. »
Alors, contrairement à Notre-Dame, le chantier de l'autoroute A69, alors disons, on atterrit, hein, risque de ne jamais être achevé. La justice doit statuer aujourd'hui.
C'est en première page de la Dépêche du Midi et c'est une affaire locale puisqu'il s'agit du tronçon de 57 km qui doit relier Castres et Toulouse. Mais c'est aussi une affaire nationale et symbolique car l'A69 est attendue depuis 20 ans et que le chantier est devenu un feuilleton façon Notre-Dame-des-Landes avec une cascade de recours écologistes, tous rejetés jusqu'à ce que le mois dernier, devant le tribunal administratif, la commissaire du gouvernement prône le retrait des autorisations. La Dépêche souligne que les travaux ont pourtant commencé depuis 18 mois et que 70% des ouvrages d'art ont déjà été réalisés. 500 élus locaux ont signé une tribune de soutien au projet au nom du désenclavement, du développement économique et de la sécurité routière. Ça n'est pas rien. Le tronçon Toulouse-Castres est censé faire gagner 20 minutes. Pour l'instant, on a perdu plus de temps qu'on en a gagné.
Ouverture ou fermeture, on s'est beaucoup posé la question pendant l'épidémie de Covid-19. Une étude publiée aujourd'hui donne des réponses.
Le Monde en livre un résumé détaillé dans sa matinale numérique et dans son édition imprimée cet après-midi. L'étude de l'Institut Pasteur compare la surmortalité liée au Covid dans 13 pays d'Europe entre janvier 2020 et juin 2022. Avant l'arrivée des masques et des vaccins, le mode de transmission du virus faisait débat. Les pays qui ont pris rapidement des mesures de restriction des contacts sociaux s'en sont mieux sortis que les autres, écrit Le Monde. Ils ont sauvé plus de vies et préservé leurs économies. Avantage aux pays nordiques, indique l'étude. En France, on a évité la catastrophe, car malgré trois régions touchées, le confinement a gelé la situation. Plus les pays ont confiné tôt, quand les hôpitaux étaient peu remplis, meilleur a été le résultat, résume dans Le Parisien le professeur Arnaud Fontanet, un des auteurs de l'étude. Le même journal, Le Parisien, donc, signale que la vaccination contre le Covid est en chute libre cet hiver. Ce n'est pas une bonne nouvelle.
On termine avec un article des Échos qui vous a laissé pantois. Il s'agit des difficultés financières de la Poste et des solutions pour y remédier.
Là, c'est de l'ouverture du courrier qu'il s'agit et ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. La Poste est une entreprise publique lourdement endettée, il y en a d'autres. Pour améliorer ses comptes, elle propose au gouvernement des pistes pour atténuer le fardeau du courrier, écrivent les Échos. Vous pensiez donc que la distribution du courrier, c'était le métier de la Poste? Eh bien non, c'est son fardeau. Comme si les pompiers trouvaient que ça coûte trop cher d'éteindre les incendies. On apprend donc dans les Échos que la Poste réfléchit à allonger le délai pour la livraison des lettres et des colis qui pourrait passer à 4 ou 5 jours et même à 7 jours pour les envois qualifiés de non urgents, ce qui veut dire que pour la Poste, l'urgence c'est 4 ou 5 jours.
Dans ces délais, il vaut mieux s'acheter un pigeon, hein, voyageur.
Oui. D'après les Échos, le réseau postal ne comprend plus que 38% de vrais bureaux de poste, le reste ce sont des points partenaires, comme on dit, dans des mairies ou dans des tabacs. Ajoutons que le prix du timbre vert va passer de 1,29€ à 1,39€ le 1er janvier et que la Poste réclame à l'État une augmentation de sa contribution qui dépasse déjà 1 milliard d'euros par an. L'État, ce sont les contribuables, c'est-à-dire vous et nous, et je suggère qu'on demande donc aux contribuables d'envoyer leur chèque par la Poste.
Nous voilà affranchis. À demain, Hervé.
À demain.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
C'est l'heure de retrouver le philosophe Luc Ferry, notre esprit libre du lundi. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Merci d'être avec nous ce matin, toujours en direct évidemment. Luc, parlons tiens de cette cérémonie à Notre-Dame. C'était évidemment samedi. Pour le chef de l'État, ce fut une sorte de parenthèse enchantée, dixit Guillaume Tabar tout à l'heure à 8h10. Cette cérémonie vous a-t-elle semblé réussie?
Forcément, on va pas gâcher la fête. Je dois avouer que ce qui m'impressionne le plus, c'est la qualité de l'artisanat français. Voilà, il y a un magnifique numéro du Figaro Magazine sur le sujet parce qu'on voit comment les peintres, les sculpteurs, comment les ouvriers aussi, les artisans. Il y a des artistes, des artisans, des ouvriers, les couvreurs, les verriers, enfin les plâtriers. C'est absolument extraordinaire ce qu'on a gardé comme artisanat. Il n'y a pas un seul pays au monde qui aurait été capable de faire ça. Même l'Allemagne n'aurait pas été capable de faire ça.
Vous savez qu'il y a des ferronniers. Il y a quand même des ferronniers américains qui ont travaillé sur la réparation de Notre-Dame.
Il y a des artisans partout dans le monde, mais pas cette collection, cette réunion de savoir-faire qui est absolument unique à la France et qui vient de la construction des cathédrales, c'est-à-dire de la naissance de la franc-maçonnerie. Puisque moi, je suis pas franc-maçon, mais le franc-maçon, c'est le maçon qui était libre et qui construisait ces cathédrales. Et il y a eu tout cet artisanat qui n'a pas été perdu depuis. Donc, c'était très bien, évidemment. On pouvait pas faire autrement que d'inviter 50 chefs d'État et de gouvernement. Tout ça, c'est codé. Il faut le faire. Mais c'est pas par démagogie que je dis ça, mais si j'étais président de la République, j'aurais fait une cérémonie spéciale. Bien sûr, ils ont été invités aussi. Mais une cérémonie spéciale pour les artisans, parce que ces gens-là sont aujourd'hui, certains sont tristes.
Elle a eu lieu la semaine dernière.
Non, ils ont été invités, mais
ils étaient invités.
Non.
Le président de la République était au milieu d'eux.
David,
il y avait
pas
des
encore
casques partout.
Non, je suis pas encore totalement gâteux. Je parle d'une cérémonie spéciale. Voilà. Donc, quand je dis quelque chose, généralement, j'ai un peu réfléchi avant. Voilà. Donc, ils ont bien sûr été invités. C'est tout à fait normal. Mais j'aurais fait une cérémonie spéciale parce qu'encore une fois, ce savoir-faire français, il est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. J'en parlais hier avec Dany Cohn-Bendit. L'Allemagne est un pays formidable. Il y a une industrie allemande et il y a un savoir-faire allemand aussi. Mais Dany me disait, oui, tu as totalement raison. L'Allemagne n'aurait pas été capable de faire ça. Aucun pays n'aurait été capable de faire ça. Et ça, c'est formidable. Donc, pour Emmanuel Macron, bien sûr, c'est un moment béni par rapport à la situation politique française. On peut le saluer le travail qui a été fait sous son égide, évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un savoir-faire français. Il y a une image de la France au moment où la France est quand même politiquement dans les choux, pour être poli encore. Eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Comme les Jeux Olympiques, d'une certaine. Moi, j'ai pas aimé la cérémonie des Jeux Olympiques, mais néanmoins, on a donné au monde entier une image d'une réussite. Ça fait deux fois qu'on donne une image de réussite et ça fait du bien.
Luc, vous avez évoqué la franc-maçonnerie.
Oui.
Et fait un lien entre la maçonnerie opérative, c'est-à-dire la taille de la pierre. Les équilibres de ces pierres, la pierre angulaire, etc., etc. Évidemment, les proportions, donc l'architecture et la franc-maçonnerie spirituelle. Oui. Comment vous établissez ce lien? Comment il s'opère intellectuellement?
Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a évidemment beaucoup d'obédiences. Il y a des obédiences qui sont très laïques, comme le Grand Orient, et puis il y a des obédiences qui sont plutôt religieuses, comme l'AGL ou l'AGLNF, où il y a des croyants de toute confession. Et c'est très intéressant de voir que dans toute la franc-maçonnerie, de toute façon, il y a un rapport au grand architecte, il y a un rapport à la transcendance. Et ça, même si on n'est pas croyant, je crois que vous ne l'êtes pas non plus, ou pas plus que moi, on a, quand on rentre dans un édifice comme ça, on a un rapport à la transcendance qui est immédiat, ça vous tombe dessus, parce que on est obligé de reconnaître, même si on est athée, que pour fabriquer, pour construire, pour concevoir des édifices aussi beaux, aussi monumentaux, aussi incroyablement décorés, il faut un rapport à l'au-delà, il faut un rapport au plus humain. Voilà. Et même si on est athée, on peut avoir une spiritualité. Moi, je parle de spiritualité laïque. Tous mes livres tournent autour de la question de la spiritualité laïque. Et ce qui m'intéresse, c'est cette question du rapport à la transcendance. Et donc, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs vecteurs, il y a plusieurs voies qui conduisent à la transcendance. On n'est pas obligé d'être croyant pour avoir un rapport à la transcendance. L'amour est une forme de rapport à la transcendance. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous sortez de vous-même et vous êtes dans un rapport à l'altérité de la personne que vous aimez et qui transcende, à la limite, vous pourriez vous sacrifier pour elle, donc elle transcende votre vie d'une certaine manière. Mais là, on a un monument qui symbolise plus que n'importe quel autre ce rapport à la transcendance.
Et les francs-maçons ont gardé, puisque vous, oui. Vous célébriez à l'instant les artisans et leur savoir-faire, les francs-maçons ont gardé dans leur symbolique les outils, c'est-à-dire la truelle, l'équerre, et toute une,
c'est de là que ça
toute
vient,
une
ouais.
imagerie qui oui. vient de la construction.
Exactement.
Et le jour où Notre-Dame a brûlé, Jean-Luc Mélenchon, ça surprendra plus d'un et plus d'une, Jean-Luc Mélenchon a sans doute été l'un des hommes politiques qui a le mieux célébré les origines du génie créatif qui se manifeste lors de la construction de Notre-Dame de Paris, invoquant les origines chrétienne, orientale et judaïque, c'est-à-dire qu'il est allé chercher du côté des pyramides, il est allé chercher du côté du temple de Jérusalem et évidemment de la tradition chrétienne, l'explication du miracle architectural qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Que vous inspire ces trois courants, ces trois rivières qui aboutissent à la construction de cet édifice?
Vous les retrouvez dans le fameux roman de Victor Hugo, évidemment, parce que Victor Hugo, comme vous le savez, était un spiritualiste. Alors, est-ce qu'il était vraiment croyant ou pas? C'est très difficile. Mais il avait un rapport à la spiritualité, un rapport à la transcendance qui réunissait toutes ces spiritualités auxquelles il s'intéressait. Ce qui est assez intéressant chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça que malgré tous les désaccords abyssaux que j'ai avec lui, je n'arrive pas à détester cet homme, parce qu'il est évidemment cultivé et il ne peut pas mettre totalement de côté ce fond culturel et ce fond philosophique qui est le sien, puisqu'il a une licence de philo. Et donc, oui, Victor Hugo, bien sûr. Alors, ce qui est très, vous évoquiez le savoir-faire des Américains, de ces artisans américains qui sont venus. N'oubliez pas qu'il y a à peu près, je crois, 60 000 mécènes américains qui ont donné de l'argent pour la restauration de Notre-Dame. Et c'est ce qui explique aussi, bien sûr, la présence de... Alors, c'est pas la seule explication, mais la présence de Trump, qui à la fois donne l'image aux croyants américains qu'il a été sauvé par Dieu, évidemment, puisqu'il a échappé à la mort à 2 centimètres près, mais aussi qui sait très bien qu'il y a des dizaines de milliers d'Américains anonymes qui ont donné de l'argent. Il y a des mécènes très riches comme Bernard Arnault, François Pinault, et c'est formidable d'avoir des riches en France, et on voit à quel point c'est utile dans des moments comme celui-là. Et puis vous avez des anonymes, il y a eu, je crois, 360 000 mécènes qui ont donné de l'argent. Donc on a vraiment...
Faut pas oublier Total aussi, parce qu'on parle souvent des super profits de Total, mais enfin,
bien sûr, vous
beaucoup d'argent a été réinjecté comme ça, via Total, dans la reconstruction.
Ces entreprises qui sont décriées par l'extrême-gauche et dont on s'aperçoit qu'on a évidemment besoin d'elles quand il y a... Enfin, tout le temps besoin d'elles en vérité, mais aussi besoin d'elles dans ces occasions très particulières.
Un mot sur le secret maçonnique. Quand on dit que les compagnons francs-maçons, les maîtres maçons, se transmettent des secrets qu'ils cachent souvent entre deux pierres, dans des inscriptions un peu ésotériques. Qu'est-ce que ça a à voir avec la transcendance et la spiritualité ?
C'est aussi une vieille tradition, c'est les mystères d'Eleusis, si ça vous dit quelque chose. Il y a toujours dans les religions quelque chose de mystérieux. D'abord, la foi elle-même est un mystère. Et puis, on remonte au mystère d'Eleusis, donc à cette tradition grecque, avec cette idée qu'en effet, à l'origine du divin, à l'origine de la transcendance, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse, nous les petits humains, et donc quelque chose qui est de l'ordre du mystère, évidemment. Et donc, il n'y a pas de transcendance sans mystère. On parle aussi des mystères de l'amour, même si on n'est pas du tout croyant. Et donc, bien sûr, il y a cette dimension du secret. Moi, je suis pas du tout franc-maçon, mais je suis souvent invité par les francs-maçons pour parler justement de spiritualité laïque. Moi, je les aime bien, je m'entends bien avec eux, je trouve qu'il y a cette idée de grand architecte, cette idée de spiritualité qui n'est pas forcément religieuse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que normalement, on fait pas son coming out quand on est franc-maçon. Normalement, même le fait d'être franc-maçon doit être quelque chose qui est gardé secret.
Luc Ferry, il a été un peu reproché, je dirais un peu, à Emmanuel Macron de mélanger le laïc, enfin de ne pas respecter la séparation de l'Église et de l'État. Alors ça a gêné certains aux entournures. Est-ce qu'on est dans la France peine à jouir ?
Oui, là c'est ridicule. Il y a de toute façon des traditions culturelles qui sont des traditions d'abord et avant tout religieuses. Et moi, encore une fois, je ne suis pas croyant, mais j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi sur la signification du message de Jésus pour les non-croyants. À la demande de Benoît XVI, figurez-vous, qui m'avait choisi comme interlocuteur de son ministre de la Culture. Donc on peut ne pas être croyant et avoir malgré tout savoir d'abord qu'on est incroyablement influencé par cette tradition religieuse qu'est le christianisme, mais aussi par le judaïsme et par la mythologie grecque. Donc c'est totalement absurde de rejeter la culture religieuse, si je puis dire, la culture, le fait religieux, alors que toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire de l'art est façonnée par ces cultures religieuses, que ce soit le judaïsme, que ce soit la mythologie grecque ou que ce soit évidemment le christianisme. Vous pouvez pas traverser le Louvre sans voir des œuvres qui sont intégralement façonnées par un référent religieux. Donc, c'est se couper du religieux, c'est se couper de la culture, tout simplement. Donc, c'est tout à fait absurde. Il y a un côté dans l'idéologie révolutionnaire, comme dans le maoïsme, il y a toujours cette idée qu'on va détruire, comme on l'a fait d'ailleurs au temps de la révolution russe ou de la révolution culturelle chinoise, on va casser les traditions, on va détruire les temples, on va détruire les églises, on va casser les statues, on l'a fait aussi. Le vandalisme, vous vous souvenez, dans la Révolution française. Vous allez c'est très intéressant, au musée Cluny, vous avez une collection de statues qui sont décapitées. Au musée Cluny à Paris, à côté de la Sorbonne. Voilà, donc ça, ce vandalisme-là, ça reste dans l'extrême-gauche, une espèce de tradition. On va faire la révolution et on va couper les têtes. Voilà, donc on coupe les têtes des statues.
Il y a plein de bâtiments en France, ou en tout cas à Paris, où sur les escaliers, par exemple, vous avez des fleurs de lys qui ont été effacées.
Exactement,
au moment de la révolution.
Et au musée Cluny, je vous dis, c'est très frappant parce que vous avez cette série de statues décapitées qui sont des statues religieuses. Voilà.
Je voudrais qu'on termine... avec une transition un peu hasardeuse, mais il nous reste une minute. Vous savez évidemment que le régime de Bachar el-Assad est tombé ce week-end. Il n'a pas fallu 24 heures pour avoir des réactions politiques éplorées ou enthousiastes. et dans les loges maçonniques, on réclame aux apprentis le silence, au moins pendant un an, le temps de changer de grade et de devenir compagnon. Est-ce que nos politiques ne devraient pas s'imposer le silence de l'apprenti de temps en temps, avant d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur les événements contemporains ?
C'est très raisonnable ce que vous dites, parce que la situation est compliquée. On peut toujours se réjouir de voir tomber une dictature, se réjouir du fait que l'Iran est affaibli, ce qui a permis à Al-Joulani de renverser Bachar. On peut se réjouir du fait qu'il va rester chez lui. En même temps, c'est un frère musulman et il va, je peux vous le dire en toute certitude, il va installer un califat. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et moi, j'ai des amis qui sont des chrétiens d'Orient, qui m'écrivent très souvent depuis que je suis allé en Syrie et qui me disaient toujours, si Bachar tombe, on se fait égorger dans le quart d'heure. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas, mais attendons de voir ce qui va se passer. Attendons de voir si on va vers une guerre civile. Et de toute façon, le projet d'Al-Joulani, c'est d'installer un califat. Donc, on va tomber quand même de caribes dans ce style-là. Soyons prudents et soyons pas naïfs.
Prudence, prudence. Cher Luc, nous allons nous quitter avec Renaud et Gauthier Capuçon qui ont joué samedi, évidemment, à Notre-Dame, la Passacaille de Handel, arrangée par Halvor Sehn. Luc, à la semaine prochaine.
Merci.
Radio Classique. Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Bonjour à tous. Ah, c'est un sujet qu'on a un petit peu oublié, nous, évidemment, en Occident, mais qui a eu un rôle absolument extraordinaire dans l'histoire du début du XXe siècle. C'était cette guerre russo-japonaise de 1905, et nous allons revivre la bataille navale de Tsushima.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le 27 mai 1905, nous sommes en pleine mer, au cœur de la guerre russo-japonaise, dans le détroit de Tsushima. Ça se trouve entre la Corée et le sud du Japon. Hein. Et nous sommes à bord du navire amiral russe qui s'appelle Prince Souvorov. Le Prince Souvorov est un bateau à vapeur de 121 mètres, deux cheminées à vapeur, deux tourelles. Et cette fois, il est, mais alors, complètement pris sous le feu de la marine japonaise. Un officier russe qui s'appelle Semenov va raconter dans son journal, qui s'appelle « La guerre russo-japonaise sur les mers », je le cite, « Il était seulement impossible de compter le nombre de projectiles qui nous frappaient. Les obus semblaient pleuvoir sur nous de façon incessante, l'un après l'autre. Les plaques d'acier et les superstructures du pont supérieur étaient déchiquetées. Les éclats causaient beaucoup de pertes. Les échelles métalliques étaient tordues comme des anneaux et les canons étaient littéralement arrachés de leurs affûts. En outre, la température et les flammes des explosions semblaient se répandre sur tout. J'ai vu une plaque d'acier s'enflammer sous l'effet d'une explosion. » Ce navire Prince Souvorov va prendre feu comme un fétu de paille. Les munitions japonaises sont redoutables. La poudre Shimosa enflamme la peinture des navires, les obus éventrent les deux cheminées et pulvérisent littéralement le gouvernail. Le vaisseau amiral se met à tourner en cercle, à moitié coulé, incapable de combattre. Et à bord, l'amiral russe, l'homme qui commande la flotte russe, il s'appelle Zinovy Rozhestvensky, eh bien, il est lui-même atteint. Il est lui-même blessé et grièvement, il abandonne le navire, après quoi on voit couler ce vaisseau avec tout son équipage. Une tragédie que pourtant l'amiral avait vu venir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Cela fait 10 ans que les empires japonais et russes sont en train de se battre. Alors, du côté japonais, vous avez l'empereur Mushito,
du côté russe, le tsar Nicolas II, et tous deux visent le contrôle de la Corée de la Mandchourie. C'est ça la zone sensible, si je puis dire. Déjà, le Japon occupe une grande partie de tout cela, mais les Russes ont prolongé le Transsibérien jusqu'en Mandchourie et ils envoient des troupes. Le 8 février 1904, le Japon a attaqué la flotte russe dans le port stratégique de Port Arthur, vous vous rappelez, hein, la péninsule coréenne, ça nous rappelle des souvenirs de lycée, tout ça. La Russie perd 3 navires, ainsi que le contrôle maritime de la zone. Sa flotte est bloquée à quai à Port Arthur, et le 10 août 1904, elle va tenter une sortie, seulement elle perd pas mal de bâtiments et va devoir battre en retraite, ce qui fait que les Russes sont complètement isolés, très 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 loin de leur capitale, à 13 milles de Saint-Pétersbourg, et encore en coupant par le canal de Suez. La Russie, pour autant, ne s'estime pas vaincue, mais même pas du tout. Le tsar Nicolas décide d'expédier sa flotte impériale du Nord, donc depuis la mer Baltique, jusqu'à la mer de Chine pour aller forcer le barrage, le siège de Port Arthur, pour libérer les Russes qui sont là-bas assiégés. Mais vous imaginez un peu l'épopée. Le commandant de cette flotte russe du Nord, c'est donc cet amiral Zinovi Rozhestvensky qui a 57 ans, regard impénétrable, grande moustache soignée comme un officier supérieur russe de l'époque, un personnage tchékovien si je puis dire. Parmi les 7 cuirassés de son escadre, 4 sont tout neufs. Le prince Souvorov donc, l'empereur Alexandre III, l'Orel et le Borodino. Il y a aussi des croiseurs, des torpilleurs, des charbonniers évidemment, parce que la consommation de charbon pour tous ces vapeurs est littéralement faramineuse. Bref, c'est une flotte de 45 navires en tout qui prend le départ le 14 octobre 1904, en quittant donc la mer Baltique. Alors attention, hein, des renseignements circulent sur la présence de torpilleurs japonais en mer Baltique, ce qui fait que Rozhestvensky ordonne aux officiers d'ouvrir le feu sur tout navire qui refuserait de s'identifier. On est en guerre. Quelques jours plus tard, en mer du Nord, un équipage aperçoit toute une escadre japonaise, une 30aine de navires quand même. Les croiseurs russes donnent du canon. Étrangement, aucun des navires ennemis ne réplique. Et pour cause, en fait, c'était pas du tout une escadre japonaise, c'était des chalutiers anglais. 2 malheureux pêcheurs vont être tués dans cette pitoyable escarmouche. 12 sont blessés. Les Russes sont tellement approximatifs qu'ils ont même, dans l'échauffourée, tiré sur leur propre navire. Il y a un aumônier russe qui a perdu un bras. Ça vous donne quand même une idée de l'état de préparation et ça augure mal de l'avenir. La Grande-Bretagne est choquée, il y a de quoi, vous me direz. Il faut savoir qu'elle est déjà l'adversaire de la Russie et de la France qui est alliée aux Russes. La Grande-Bretagne est donc l'alliée du Japon dans cette affaire, ça changera par la suite. Elle crée un incident diplomatique et elle va tout mettre en œuvre pour empêcher la flotte russe de se ravitailler en charbon partout où elle passera. Jusqu'à l'Atlantique, la navigation des Russes est donc émaillée de toutes sortes d'incidents. Et ils sont pas prêts, les Russes, ça se voit tout de suite. Je cite Bertrand Dietz dans son essai sur, je cite, « Les plus belles erreurs militaires ». C'est aux éditions de L'Opportun, c'était paru au moment du Covid, ça. Et ça décrit l'attitude de l'amiral. Rozhestvensky sait, et ses subordonnés les plus compétents le savent également, qu'ils courent au désastre, mais que rien ne peut être fait pour l'éviter. La seule chose à faire aurait été de rebrousser chemin, au risque de se faire accuser de couardise ou de trahison. Ni traître ni lâche, Rozhestvensky obéit aux ordres. Mais on comprend combien il devait être difficile de se sentir ainsi ridiculisé. La marche au supplice va être interminable. Déjà, la flotte russe est maintenant au large de Tanger, au Maroc. L'amiral Rozhestvensky a le choix entre 2 routes maintenant pour atteindre la Corée, soit coupée par la Méditerranée, ça veut dire qu'il faut passer par le canal de Suez, et on débouche dans la mer d'Arabie et l'océan Indien, hein, et puis ensuite c'est la mer de Chine, 13 000 nautiques. Ou bien il poursuit dans l'océan Atlantique, il contourne toute l'Afrique, il franchit le Cap de Bonne-Espérance, remonte dans l'océan Indien, la mer de Philippines, la mer de Chine, et là c'est 18 000 nautiques. Rozhestvensky redoute qu'après le canal de Suez, des torpilleurs japonais attendent et si vous voulez, monter une embuscade dans la mer Rouge. Et il a l'intention de sauvegarder ses cuirassés les plus récents. On lui a confié des navires qui sont de véritables petits bijoux. Alors il décide de séparer sa flotte en 2. Les navires les plus anciens et aussi les plus longs prendront le risque de passer par le canal de Suez. Quant aux vaisseaux neufs, eh bien, il leur faudra prudemment aller contourner le continent africain. Ce sera beaucoup plus long, c'est certain, mais Que voulez-vous? Il faut prendre des mesures. Il faut rester prudent, se dit Roger Zvensky, qui donc se lance sur son navire amiral, sur le prince Souvorov. Il se lance, lui, dans la circumnavigation. Un petit extrait de L'île des morts de Sergueï Rachmaninov, l'orchestre philharmonique de Berlin, était sous la baguette de Laurine Mazel.
Vous écoutez Radio Classique.
Évidemment, pour tenir une distance aussi phénoménale, il a fallu remplir les navires de charbon à ras-bord. On a même collé du charbon jusque dans les couloirs, dans les coursives. Il y a des cabines d'officiers qui sont pleines de charbon, vous imaginez un peu. Les bateaux d'ailleurs sont tellement lourds, que certains vont manquer de sombrer, notamment dans un ouragan à l'ouest du Cap. Bref, ils finissent par franchir le Cap. En janvier 1905, c'est-à-dire 6 mois après le départ de la Baltique, j'ai bien dit 6 mois après, les deux escadres vont pouvoir se rejoindre, celle qui est passée par Suez et celle qui a fait le tour, et elles se rejoignent à Madagascar. Alors là, faut réparer, faut recharbonner, etc. Et puis on repart en mars, mais il y a encore 2 mois de navigation. C'est le problème quand on envoie des navires depuis la mer Baltique pour aller en mer de Chine, comment voulez-vous faire? Là-bas, à Port Arthur, les malheureux Russes qui étaient coincés, assiégés, pris en étau, ont fini par capituler. Les Japonais ont fait 25 000 prisonniers, et sur place, ils ont saisi ceux des navires russes qui attendaient leur renfort. Vous imaginez, on peut dire que la guerre est perdue avant même d'avoir commencé. La flotte de Roger Zvensky, qui était censée prêter main forte à cette flotte, va arriver après la bataille, et c'est seule qu'elle devra donc affronter une flotte japonaise qui, de son côté, a eu le temps de se préparer, qui est proche de ses bases, qui attend de pied ferme. Est-ce que ce serait pas le moment de faire demi-tour pour l'amirauté de Saint-Pétersbourg? Pas question. Je sais pas si vous êtes allé à Saint-Pétersbourg et avez eu l'occasion de visiter ces extraordinaires bâtiments de l'amirauté. Quand on voit la splendeur de ces lieux, on comprend que les gens qui étaient dans ces bureaux se soient pris pour les maîtres du monde, en fait. Hein. Et on ordonne à Roger Zvensky, je cite, « Détruisez la flotte japonaise, puis gagnez Vladivostok pour prendre votre commandement. » Non seulement on envoie cet homme au casse-pipe, mais en plus on lui promet de lui retirer le commandement de sa flotte une fois la victoire acquise. Bon, tout ça est extravagant. Bon, il y a un contre-ordre qui arrive entre-temps. L'amirauté a décidé d'envoyer du renfort, une nouvelle escadre commandée cette fois par l'amiral Nebogatov. Ce qui veut dire maintenant que Roger Zvensky reçoit un ordre qui est terrible pour lui. « Attendez Nebogatov !» Nouvel espoir pour Roger Zvensky. Non, vous imaginez bien qu'il a compris qu'on lui envoie une flotte composée de vieux rafiaux, complètement poussifs, incapables de combattre la flotte japonaise. Les marins russes eux-mêmes ont donné un surnom à tous ces navires qui sont censés leur prêter main forte. « Coule tout seul », ils les appellent. Ça vous donne une idée quand même. Il faut attendre encore 2 mois, donc, hein, dans les portes des mers du Sud, sous une chaleur terrible. Roger Zvensky n'en peut plus. Il est pris de névralgie, mais on le comprend, le pauvre homme. Et le 5 mai 1905, ça y est, les deux flottes russes se rejoignent en Indochine. On a envie de dire, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Il y a un homme qui scrute tous ces atermoiements depuis un an, c'est l'amiral japonais Eihachiro, Togo Eihachiro, qui est sur son propre navire amiral, le Mikasa, dans la base navale de Mazanpo, on est en Corée. C'est un peu le même genre que Roger Zvensky, si vous voulez. Hein. Lui aussi, moustache, barbe blanche finement taillée, port altier. Il a fait l'école navale de Londres. Il s'est illustré pendant la guerre sino-japonaise. Il est à la tête de la première marine d'Asie. Et il vient de remporter la bataille de Port Arthur, bien entendu. Maintenant, il suit dans la presse l'évolution de cette espèce de tour du monde de la flotte russe. Il sait que sa flotte, à lui, est beaucoup moins nombreuse que celle des Russes, c'est vrai, mais il est confiant, car il sait que ces navires britanniques dernier cri sont plus rapides, mieux équipés, en bien meilleur état aussi, pour ce qui est des équipages, hein, bien sûr. Les navires britanniques sur lesquels il évolue filent 16 nœuds contre 8 pour les Russes. Avec en plus un système radio ultra sophistiqué, des dispositifs de visée et de tir complètement révolutionnaires, des équipages, je vous l'ai dit, entraînés, motivés, disciplinés, ce sont des Japonais. Le budget de la marine japonaise en quelques années avait quadruplé et on voit le résultat. C'est assez spectaculaire. L'amiral Togo attend la flotte russe à 5h du matin, le 27 mai 1905. Un croiseur japonais aperçoit les bâtiments russes croisés dans le détroit de Tsushima, entre la Corée et la grande île du sud du Japon, Kyushu. Ce détroit marque l'entrée en mer du Japon, c'est-à-dire que les choses sérieuses, là, vont vraiment commencer. Depuis la Corée, Togo lance toute sa flotte dans la direction des Russes. Il envoie un message à l'état-major. Si elle sera un mer agité, ou si vous voulez une autre traduction, temps clair mais vague haute. La phrase poétique et pleine de détermination est restée célèbre au Japon. Elle est devenue une espèce de phrase. Les gens s'échangent cette expression bien volontiers. C'est assez optimiste parce que la vérité, c'est que la marine japonaise est vraiment au milieu d'une houle très forte. Et Togo a l'intention de couper la route des Russes de manière perpendiculaire. En langage naval, on appelle cette manœuvre « barrer le T ». Les navires russes avancent en colonne les uns derrière les autres, hein, sans se déployer. Ils font une sorte de large ligne, si vous voulez. Et les Japonais vont concentrer leurs tirs sur les premiers navires russes qui arrivent là-bas. À 14h45, ça y est, ça canonne, ça canarde, si j'ose dire. Les bateaux russes sont ralentis par leurs carènes qui sont couvertes d'algues et de crustacés. Ben oui, ça fait tellement de mois qu'ils croisent dans toutes les mers du Sud. Les Japonais visent les cuirassés et bien sûr, ils visent le prince Suvorov, le navire amiral. Mais aussi l'empereur Alexandre III, qui est un autre navire dernier cri. C'est la scène apocalyptique que je vous décrivais tout à l'heure. On l'a dit, les munitions japonaises sont incendiaires, les munitions russes sont plutôt perforantes. Une fois que l'obus russe a percé le navire japonais, bah vous voyez pas d'effet immédiat. Faut attendre que les dégâts détruisent le navire de l'intérieur. Alors que les Japonais, eux, lorsqu'ils incendient un navire, vous imaginez, ils ont tout anticipé. Hein. Ils ont arrosé leur pont avec du sable et de l'eau pour limiter les incendies. Leurs uniformes sont propres pour éviter l'infection, les blessures. Et conséquence de tout ça, après chaque tir, les Russes croient avoir manqué leur cible, alors que parfois ils l'ont atteinte, simplement ça n'a pas d'effet visible, alors que eux, en revanche, ce qu'ils subissent est effroyable. Je vous ai dit que l'amiral Roger Zvensky était blessé, il est même maintenant inanimé. Hein. Le Suvorov et l'Alexandre III sont coulés, les Japonais visent un troisième cuirassé russe, le Borodino, et le touchent. Ce qui veut dire que le stock de munitions à bord explose, vous voyez un peu la boule de feu, le fumée. Le Borodino prend de la gîte et le voilà qui chavire avec son pont sous l'eau, la coque maintenant vers le ciel. Les marins sont prisonniers là-dessous avant que ce qui est un véritable cercueil de fer ne les entraîne, ne coule à pic. Depuis les autres navires russes, évidemment, on est complètement affolé. Les joyaux de la puissante flotte impériale russe ne sont plus maintenant que des feux qui illuminent la nuit catastrophique, apocalyptique de cette mer du Japon. L'Orchestre symphonique d'État du RSS sous la direction d'Evgeny Svetlanov interprétait ce poème symphonique Prince Roslav de Sergueï Rachmaninov.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est un désastre complètement indescriptible, hein, ce qui se passe pour les Russes. Ils ont perdu leurs 8 cuirassés, la quasi-totalité de leur flotte. Il n'y a que 3 navires qui ont réussi à échapper à ce qui était une curée en mer et à gagner Vladivostok. Et là, bien sûr, que le tsar n'a plus d'autre choix que d'accepter un traité de paix. Son chef de gouvernement, le comte Vité, vous savez, Serge Vité, va signer ce traité le 5 septembre à Portsmouth, aux États-Unis. La Russie renonce à la Corée, à Port-Arthur, à la Mandchourie. Ça affaiblit beaucoup le régime impérial, ça. Et c'est évidemment, c'est le moment où les émeutes vont se transformer en révolution. C'est la révolution russe de 1905, hein, avec notamment la mutinerie d'un autre cuirassé que vous connaissez par cœur, le cuirassé Potemkin, bien entendu, à Odessa, au mois de juin. Comment voulez-vous qu'un désastre aussi fulgurant n'ait pas eu des conséquences politiques majeures ? La révolution de 1905, elle va entraîner, bien sûr, les révolutionnaires à ce qui deviendra plus tard la grande révolution de 1917. Donc, cette bataille navale catastrophique et calamiteuse qui aurait si bien pu être évitée aura des conséquences qui sont considérables à l'échelle de l'ensemble de l'histoire de la planète. Après le traité de paix, les Japonais libèrent l'amiral Rozhestvensky. On est là en novembre 1905 et il va, quand il arrive à Saint-Pétersbourg, être traduit par l'amirauté galonnée et dorée dont je vous parlais tout à l'heure, traduit en cour martiale, le pauvre Rozhestvensky, lui ainsi d'ailleurs que tous les officiers qui ont survécu à la bataille de Tsushima, ils risquent tous le peloton d'exécution pour avoir perdu la bataille. Et Rozhestvensky va vouloir endosser seul toute la responsabilité de la défaite. Seulement, c'est pas lui qui va être condamné, c'est l'amiral Nebogatov qui est condamné à mort pour s'être rendu avec le reste de la flotte. On a envie de dire, nous, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse ? Bref, le tsar commue la peine capitale en peine d'emprisonnement, et puis finalement, il graciera tous les condamnés, mais Rozhestvensky ne se remettra jamais de cette affaire. Il finit par tomber malade, et il mourra 3 ans plus tard. C'est ce qui s'appelle être rongé par quoi ? Est-ce que c'est par la culpabilité ? Est-ce que c'est par l'humiliation ? Je pense qu'il a surtout été rongé par la colère de ce à quoi on l'a contraint pendant tous ces mois d'une marche au supplice extravagante. Est-ce qu'il fallait aller à Tsushima ? À mon avis, vous avez la réponse. Voici ce que nous dit Bertrand Diette. Tsushima est une de ces batailles inutiles mais inéluctables, livrées pour l'honneur, en pure perte, pour relever le défi presque moral posé par l'adversaire.
Vous écoutez Radio Classique. Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique. Il est 5h58, la matinale démarre avec ce matin un petit livre orange de plus de 1200 pages, une sorte de bible pour les publicitaires. Au titre ironique, pas de publicité, merci, c'est aux éditions JBO Books et c'est signé Rémi Babinet, le fondateur de l'agence BETC, considéré comme l'un des meilleurs publicitaires de tous les temps. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Forbes qui le classe dans son top 10. On lui doit les pubs des bébés Evian, les pubs Air France, Monoprix, Lacoste, bref, autant de publicités rentrées dans la culture populaire puisqu'elles s'en inspirent, un reflet de l'époque dans un marché en constante évolution. Rémi Babinet est dans les voies de l'économie ce matin, c'est à 7h15. Dans l'actualité ce matin également, la recherche d'un Premier ministre qui prend plus de temps que prévu avec les représentants des partis hors RN et Insoumis, tous réunis à l'Élysée aujourd'hui, alors qu'une loi spéciale pour permettre la continuité de l'État est prête. On va y revenir dans cette matinale qui commence par la météo.
À
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets d'expatriation.
Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Le temps est gris et froid.
Des nuages sur tout le territoire, à part sur la Côte d'Azur et en Corse où les éclaircies sont généreuses. Il fait froid, c'est accentué par le vent. Il gèle dans le Cantal ce matin. 1 degré dans le Limousin et en Bourgogne, 2 à Lyon, 3 à Bordeaux, 4 degrés à Paris et Montpellier, 7 à Brest et Marseille. Puis cet après-midi, entre 3 et 8 degrés seulement, à part à Nice où il fera 12.